La première, podcast. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hausset.
Le 12 octobre 1915 à Scarbeck, un peloton d'exécution allemand fusille une infirmière britannique âgée de 49 ans. Elle a été condamnée à mort la veille avec d'autres membres d'un réseau d'évasion pour avoir permis à plusieurs centaines de soldats alliés d'échapper aux occupants. Malgré la pression internationale, elle est exécutée pour haute trahison. Elle s'appelait Edith Cavell.
Pourquoi tenez-vous tellement à me maintenir en vie ?
Parce que je suis infirmière.
Avec ici un extrait du Patient anglais, le film d'Anthony Minghella. Avec nous pour évoquer ce parcours d'Edith Cavell, Patrick Lautz. Bonjour Patrick Lautz.
Bonjour.
Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste, grand connaisseur de la médecine lors de la Grande Guerre. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Les soignants de la Grande Guerre. Puis il y a un site internet qui est très très complet, on en donnera les références tout à l'heure. Alors avec vous, donc, on va revenir sur ce parcours. Edith Cavell est née le 4 décembre 1865 à Swaderston. C'est un petit village du comté du Norfolk en Angleterre. Dans quel type de milieu grandit Edith Cavell ?
Elle grandit dans un milieu très religieux. Son père est protestant, anglican, et il est pasteur. Et il montre une rigueur assez importante. On dit même qu'il n'hésite pas à sermonner ses paroissiens en chair. Donc un milieu très rigide. Mais aussi très aimant. Ouais. Donc Edith Cavell a une mère qui pousse ses enfants aux études.
Elle a un frère et deux sœurs. Alors on dit que très très tôt, Edith va s'intéresser aux autres, hein, qu'elle va témoigner d'une certaine empathie à l'égard des plus démunis, les pauvres, les malades. En 1884, elle décroche un diplôme d'institutrice. En 1890, elle arrive à Bruxelles où elle va s'occuper d'enfants dans une famille, la famille François. Et puis 5 ans plus tard, elle regagne son village de Swaderston pour y soigner son père. Donc la foi, c'est quelque chose de très très important dans son parcours.
Oui, la foi, l'idéal et l'amour aussi de la Belgique, hein, ouais. Parce que ça c'est un point très important. Edith Cavell va montrer dans son enfance un don pour les langues, pour le français, et ses parents vont l'encourager à perfectionner ce don, et finalement elle va partir, comme vous l'avez très bien dit, de la famille François pendant 6 ans, un petit peu comme une dame chargée de l'enseignement, ouais, des enfants, et elle va s'y plaire beaucoup, hein. Elle est François, c'est une famille bruxelloise, ils possèdent une maison de campagne à la frontière hollandaise, un château, ils possèdent aussi dans la région de Namur, sur le bord de la Meuse, à La Plante, une maison de campagne. Edith Cavell va passer là des moments qu'elle se souviendra toute sa vie, assez paisibles.
Et en 1896, elle rentre au Royal London Hospital comme aide infirmière, et puis elle va gravir les échelons. Elle va y rester 5 ans, et puis elle va entreprendre une série de voyages, c'est ça ? Elle va là aussi se perfectionner ?
Elle va avoir un petit héritage, et elle va pouvoir voyager en Suisse et en Bavière, et donc se perfectionner un petit peu et prendre une résolution, celle de devenir infirmière. Mais en fait, paraît-il, sa résolution de devenir infirmière se passe après avoir soigné son papa, qui est devenu très malade. Donc elle abandonne la famille François finalement pour retourner soigner son papa. Et c'est après les soins donnés à son papa pendant de nombreux mois qu'elle se décide à devenir infirmière. Et là, elle s'engage au London Hospital de Whitechapel, qui assure une formation d'infirmière, et elle devient infirmière, et elle sera reprise par la même institution pour y travailler. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on a des témoignages de sa chef sur son caractère. Elle montre un caractère très renfermée finalement, ouais, avec une certaine distance. Elle préfère penser à un caractère un peu hautain, ce, ouais, qui n'est pas le cas. Hein.
En 1907, elle revient à Bruxelles. Pourquoi ?
Alors en 1907, elle a l'occasion de revenir à Bruxelles et de retrouver le pays finalement qu'elle aime. Hein. Donc on a parlé de la famille François. Et après avoir fait quand même déjà une carrière de 5-6 ans comme infirmière en Angleterre, sa chef de nursing a trouvé qu'elle était mieux dans un travail de nuit. Elle va travailler 3 ans comme infirmière dans une infirmerie pour pauvre aussi. Hein. Donc là, ce n'était pas vraiment l'hôpital, c'était plutôt un asile. Et elle va exercer là pendant 3 ans, ce qui est remarquable. Elle va aussi, on constate qu'elle est plus faite pour les contacts individuels et pas pour un travail en commun. Elle va travailler aussi comme infirmière à domicile. Donc le Royal London Hospital envoyait ses propres infirmières dans des familles pour soigner des malades chroniques. Ouais. Et elle va finalement revenir dans l'hôpital pour s'occuper d'une salle. Et c'est à ce moment-là, peu après, qu'on demande une infirmière en Belgique.
Et c'est ici qu'il faut parler d'un personnage important, c'est Antoine Depage.
Antoine Depage.
Alors, qui est-il, cet Antoine Depage ?
Alors, cet Antoine Depage, c'est vraiment une personnalité belge qui mérite finalement d'être soulignée, d'être rappelée. C'est un médecin professeur à l'Université libre de Bruxelles, professeur de chirurgie. Et c'est un chirurgien né à Boisfort, hein, Boisfort qui était à cette époque-là encore environné de nature. Ouais. Son papa tient une ferme et il y a 7 enfants dans la famille. Et normalement, Antoine Depage devait se destiner uniquement à un travail de fermier. Il devait reprendre la ferme de son papa. Il se fait qu'à Boisfort, ils étaient voisins de la famille Solvay. Et les enfants Solvay, vous connaissez tous Solvay, les enfants Solvay s'apprêtaient à faire des études universitaires. Et c'est ce qui a poussé Antoine Depage, qui était ami avec les enfants Solvay, un peu par orgueil, de faire aussi des études universitaires. Alors, il rentre à l'université, à l'ULB, il choisit un peu la médecine par hasard. On dit que c'est parce que l'inscription était moins chère et parce qu'il y avait moins de monde et qu'il était de nature timorée. On verra qu'après, il était loin d'avoir cette nature. Et il va faire la chirurgie. Et en faisant, il va devenir chirurgien, et puis il va acquérir une assez importante notoriété qui va même la faire connaître de la famille royale.
Ouais.
Et cette notoriété, c'est, si vous voulez, une conception de la chirurgie tout à fait moderne, et il va être un des précurseurs de cette chirurgie moderne qu'on commençait à vouloir partout en Belgique.
Et c'est lui qui va confier à Edith Cavell la gestion finalement d'un hôpital.
Et à ce titre-là, il s'aperçoit, puisqu'il travaille dans des hôpitaux qui ne sont pas universitaires, mais qui sont des hôpitaux de la ville de Bruxelles, il travaille notamment à Saint-Jean, et il va s'apercevoir que les religieuses, qui sont très dévouées, mais ces religieuses-là n'ont pas le bagage intellectuel, la formation qu'il voudrait que l'on ait maintenant dans une salle d'opération. Et donc, il va vouloir copier le modèle anglais et avoir des infirmières laïques qui soient formées au métier d'infirmière.
Et c'est ainsi qu'il va donc appeler Edith Cavell.
Jusqu'à 14h, un jour dans l'histoire, sur la première.
Chères mères et sœurs, je ne vous ai pas écrit depuis jeudi, car j'étais en salle d'opération et très occupée. Jeudi, il y a eu une intervention importante. Tout s'est bien passé, et le colonel était très content de mon travail, et il a été très élogieux à mon endroit. Nous avons été prévenus en ce qui concerne la France, c'est-à-dire l'unité, et nous faisons tout pour partir avec eux. Ils partent bientôt, alors nous risquons d'être déjà partis quand vous recevrez cette lettre. Je l'espère.
Voilà, ici un extrait d'un film qui s'appelle Entre les lignes et qui évoque l'importance du rôle qu'ont joué les infirmières canadiennes lors du conflit 14-18. Nous, on évoque avec Patrick Lotz le parcours d'Edith Cavell. Alors, la Première Guerre mondiale éclate. Elle est en Angleterre. Elle est en visite chez sa mère lorsque ça arrive. Elle revient à Bruxelles le 3 août 1914. Patrick Lotz, de quelle manière est-ce qu'elle va prendre part au conflit, Edith Cavell ?
Donc Edith Cavell, effectivement, crée avec le docteur Depage, on revient un tout petit peu en arrière, en 1907, la première école d'infirmières en Belgique. Et quand la guerre éclate, l'école d'infirmières compte, qui s'appelle Institut Berkendal, compte 60 infirmières qui suivent les cours. Alors le docteur Depage, lui, va abandonner un petit peu son école pour créer l'hôpital L'Océan de la Panne derrière l'Isère. Et c'est Edith Cavell qui est en charge de cette école d'infirmières, l'Institut Berkendal, où il n'y a finalement plus qu'elle comme responsable. Je vous rappelle aussi que Marie Depage, l'épouse du docteur Depage, a participé à la création de cette école. Et alors, Edith Cavell va se trouver devant le dilemme, est-ce que je retourne en Angleterre, puisque vous savez que l'Angleterre était vraiment l'ennemi juré des Allemands, ou est-ce que je reste à Bruxelles? Elle va rester, elle va réfléchir, elle va dire mon devoir est de rester et de maintenir l'école en fonctionnement. Edith Cavell, au départ, n'est pas là pour faire de la résistance ou pour soigner des soldats anglais. Elle va simplement vouloir continuer l'école, assurer sa pérennité. Ouais. Et continuer à former les infirmiers. Il se fait qu'elle va être contactée par deux réseaux de patriotes qui essaient d'évacuer les soldats anglais. Et donc elle va être contactée d'abord par un colonel anglais qui est un blessé de la bataille de Mons, et qui, après avoir été soigné plusieurs semaines, plusieurs mois même, dans des familles dans le nord de la France, veut retourner sur le front et rejoindre l'Angleterre. Toujours est-il qu'Edith Cavell, un jour, voit arriver ce colonel et un sergent anglais avec un ingénieur belge dont il faut rappeler ici la mémoire, qui est l'ingénieur Capiot. Mmh. C'est le premier contact que Edith Cavell a avec des soldats qui reviennent de maladies et qui sont en convalescence, qui sont presque guéris et qui veulent rejoindre l'Angleterre. Alors l'ingénieur Capiot demande à Edith Cavell à ce moment-là d'aider les soldats anglais à rejoindre l'Angleterre.
Personnage important aussi, c'est la princesse Marie de Croix, c'est ça. Hein.
Donc il y a la princesse Marie de Croix, et la comtesse de Belleville, ouais, et Louise Tullier. Alors ça, c'est ces trois dames-là, ça vaudrait aussi la peine d'en parler un petit peu, ont formé un réseau d'évasion à partir du nord de la France, de Bavay, de la région de Bavay, tandis que M. Capiot, lui, c'est plutôt le borinage. M. Capiot est ingénieur au borinage de Hornu, et là, il a créé une sorte de petit hôpital secret, et donc il a soigné là des soldats anglais. Finalement, les deux réseaux vont se rejoindre. Il va y avoir des ramifications entre le réseau de l'ingénieur Capiot et le réseau de la princesse de Croix. Et ces deux réseaux vont finalement se retrouver à Bruxelles, en demandant à Edith Cavell, en faisant participer Edith Cavell à ce réseau d'évasion.
Des réseaux qui fournissent notamment aux soldats, voilà, des vêtements civils, des faux papiers d'identité, avec un mot de passe qui est York, qui est l'anagramme de Croix, donc la princesse Marie de Croix. De novembre 1914 à juillet 1915, donc Edith Cavell, la princesse Marie de Croix et quelques autres aussi mettent en place, enfin, elles participent à un réseau d'évasion de soldats. On parle de 200 individus qui pourront échapper aux forces ennemies. Alors les choses, Patrick Loos, vont se gâter en juin 1915, qu'est-ce qui se passe?
Ces filières commencent à être connues des Allemands. Les Allemands ne connaissent pas encore le mécanisme, mais Edith Cavell est mise sous surveillance, pas seulement elle, mais aussi Louise Tullier. Alors Louise Tullier, c'est aussi une collaboratrice de cette princesse de Croix et de la comtesse de Belleville. Elle va être pistée par les policiers allemands qui sont sous la direction d'un redoutable chef de police, d'un redoutable enquêteur qu'on appelle le Diable Noir à Bruxelles et qui est le lieutenant Bergen. Alors le lieutenant Bergen va finalement arriver avec ses informateurs à trouver des documents confidentiels sur Louise Tullier. Et dans ces documents confidentiels, finalement, Louise Tullier va être interrogée et ça va aboutir à une sorte d'arrestation en chaîne de tout le réseau d'évasion de 35 personnes et de Edith Cavell.
Les arrestations démarrent le 31 juillet 1915. Ils sont emmenés où, ces membres du réseau?
Les membres du réseau sont pris un par un, d'abord ouais. Louise Tullier, et puis un jour on va arrêter aussi Edith Cavell.
Et ils sont emmenés à la prison de Saint-Gilles.
Ils sont emmenés à la prison de Saint-Gilles.
Comment est-ce qu'elle va se défendre, Edith Cavell?
Alors, Edith Cavell, on va l'accuser, évidemment, de pas d'avoir soigné des soldats, mais surtout d'avoir fourni des nouveaux soldats à l'armée anglaise, et de donc participer directement à la guerre. Elle va se défendre en disant que Elle a soigné aussi dans son institut Birkendall des soldats allemands, qui n'a jamais regardé la nationalité de ceux qu'elle avait soignés à l'institut Birkendall, mais que son devoir d'anglaise était aussi de faciliter leur retour vers l'Angleterre.
Si elle fait sa confession, si elle avoue, c'est parce qu'on lui raconte qu'un de ses collègues, un autre membre du réseau, a tout raconté déjà, c'est ça?
Ben oui, donc c'est ça, je vous ai expliqué que ce lieutenant Bergan est un redoutable policier. Il va employer toutes les ruses possibles en disant « Oh, je connais déjà telle information, Louis Tullier a avoué, on a retrouvé... » Donc il va faire intervenir beaucoup de ruses pour avoir les aveux. Finalement, bon, les aveux ne sont pas non plus si extraordinaires que ça. Hein. Ce ne sont pas des crimes que Edith Cavell a fait. Elle a simplement facilité le passage clandestin des soldats vers la Hollande, en les faisant passer pour des malades dans son institut Birkendall. Edith Cavell ne trouve pas ça. Personne ne peut s'attendre à un verdict aussi affreux et à un jugement. Voilà, et le jugement à des condamnations à mort. Personne ne s'y attendait vraiment. Hein.
Un jour dans l'histoire.
Chère mère, j'ai parlé au colonel et il m'a dit « Oui, mademoiselle MacDonald, nous voulons de bonnes infirmières. » Il m'a dit qu'il ferait tout en son pouvoir. Est-ce que je vous ai dit que j'étais responsable du groupe? 19 en tout. Certaines d'entre elles assez vieilles pour être ma mère. Bien plus vieilles que vous, bien entendu, chère maman. Avec tout mon amour, Catherine.
Voilà ce documentaire encore entre les lignes qui met à l'honneur le rôle des infirmières canadiennes lors de la guerre 14-18. On évoque avec Patrick Laws donc une infirmière britannique, Edith Cavell. Le 11 octobre 1915 à 17h, les autorités militaires allemandes condamnent Edith Cavell et les autres accusés à la peine de mort. 5 sont accusés, sont condamnés à mort. Le lendemain, le 12 octobre, Philippe Bauck et Edith Cavell sont exécutés au tir national, c'est à Scarbeck, le long du boulevard Reyers. C'est aujourd'hui un mémorial d'ailleurs où elle a été enterrée une première fois. On verra qu'elle sera ensuite conduite en Angleterre. Alors pourquoi une exécution si rapide, Patrick Laws?
Justement, l'exécution si rapide est due vraiment à la colère de ce général von Soberzweck qui veut exécuter, montrer, faire un exemple avant d'avoir les retombées internationales d'une pareille exécution. Donc il s'attend à ce que cette condamnation à mort, et surtout l'exécution de cette condamnation à mort, va entraîner un mouvement à Bruxelles évidemment, mais aussi un mouvement international. D'ailleurs, ça s'est passé avant même l'exécution. L'ambassadeur américain Brant Wheelock, l'ambassadeur d'Espagne, le marquis de Villalobar, vont entreprendre des actions de dernière minute, au point notamment d'aller le 11 octobre au soir, après le jugement, au théâtre de la Monnaie où s'est réfugié, où se distrait le général von Soberzweck, et interrompre à l'entracte, aller trouver le général qui est dans sa loge en lui disant « Écoutez, est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir exécuter demain Edith Cavell ?» Ça provoque un tollé dans le corps diplomatique américain, et l'Amérique n'était pas encore en guerre à cette époque-là, je vous le rappelle. Et alors, le général von Soberzweck fait taire son collaborateur, il garde sa décision, on ne veut pas interrompre son théâtre pour assister à une dernière réunion sur la décision à prendre, il maintient sa décision. Et donc, le lendemain, Edith Cavell est fusillée.
Ce qui choque beaucoup, c'est bien sûr l'horreur de cette exécution, mais c'est quoi? C'est que c'est une infirmière et une femme?
Oui, ce qui choque, évidemment, il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque. Ce qui va surtout choquer, c'est que c'est une infirmière. Hein. C'est une femme, évidemment. Mais il faut rappeler que pour les femmes, les alliés ne sont pas tout blancs non plus. Hein. Je vous rappelle que Margaret Schmidt, allemande, a été fusillée à Nancy par les Français en mars 1915. Ottilie Moss, une autre allemande condamnée pour espionnage, a été fusillée à Bourges en 1915. Et la célèbre Mata Hari que tout le monde connaît en 1917. Donc fusiller une femme, on ne peut pas dire que c'est un acte unilatéral du côté ennemi, du côté allemand. Mais ce qui heurte effectivement, c'est que c'est une infirmière. et qu'elle n'est pas condamnée pour espionnage, hein, elle est condamnée pour avoir facilité le retour des soldats anglais blessés à la bataille de Mons. Et c'est donc une infirmière qu'on fusille.
On va revenir sur son exécution. Quatre autres accusés vont voir leur condamnation à mort, muée en peine de prison à perpétuité. Les autres sont condamnés à des peines de prison. Un mot quand même de la princesse Marie de Croix. Elle est incarcérée à la prison de Siegburg, en Allemagne, dans des conditions très très dures. Et puis, elle va encore faire preuve de courage, dans cette prison.
Marie de Croix, oui, va se révolter contre les conditions de détention. Elle va refuser de participer à la fabrication de munitions. On fabriquait une certaine munition. Elle va encourager ses collègues et elle va se retrouver aussi en présence de Louise de Bétigny, qui, elle, est une Française aussi de ce nord de la France, qui a fourni beaucoup de femmes remarquables pendant la guerre 14-18. Et Louise de Bétigny, elle ne s'occupait pas de transfert de soldats, évidemment, mais elle était une véritable espionne. Et Louise de Bétigny va mourir emprisonnée à Siegburg aux côtés de la princesse Marie de Croix, qui va lui apporter beaucoup de réconfort aussi.
Marie de Croix qui refuse sa libération, si j'ai bien compris. Le roi d'Espagne demande sa libération.
Noblesse oblige, avait été assez pistonnée.
Ouais.
Et elle avait obtenu de Guillaume II de pouvoir être libérée plus rapidement que ses collègues, et elle a refusé cette libération.
Elle sera libérée, Marie de Croix, le 13 novembre 1918. Elle cachera encore des soldats lors de la Seconde Guerre mondiale et elle meurt en 1968 à l'âge de 92 ans.
Je n'ai pas écrit depuis 2 ou 3 jours. Nous avons été tellement occupés. Et quand je n'étais pas de garde, j'étais trop fatiguée pour écrire. Les nouvelles de la guerre ne sont pas très bonnes, n'est-ce pas? Nous sommes complètement débordés. Le matin, c'est du travail très expéditif sur la ligne, et puis, ici, le soir. Les pauvres souffrent de blessures atroces. Il y en a un qui est très malade. Les deux jambes amputées au genou. Il a perdu tellement de sang que je crains pour sa vie. Il a dû subir une autre intervention encore ce soir, et quand il est revenu, il ne pouvait pas dormir sans me tenir la main. C'est un amour, mais j'ai tellement peur qu'il ne s'en sorte pas.
Le rôle des infirmières lors de la Grande Guerre, hein, entre 1914 et 1918. Donc on évoque aujourd'hui le parcours d'Edith Cavell avec vous, Patrick Lotz. La nuit qui précède son exécution, Edith Cavell va pouvoir parler à un révérend anglican qui va lui donner la communion. Et il lui prête des derniers mots qui sont assez forts. Je ne sais pas si vous les avez.
Oui, je les ai ici devant moi. Donc elle fait le bilan finalement. Donc avant son exécution, elle va passer 10 semaines à la prison de Saint-Gilles. Et elle dit, la veille de mourir, « Je remercie Dieu pour ces 10 semaines de quiétude avant la fin. Ma vie a toujours été pressée, pleine de difficultés. Cette époque de repos a été une grande grâce. Tous ont été très bons pour moi ici. Ce que je tiens à dire, me trouvant en face de Dieu et de l'éternité, c'est que je me rends compte que le patriotisme n'est pas assez. Je ne dois avoir de haine ou d'amertume envers personne. » Donc ce sont des phrases effectivement remarquables. Elle est condamnée à mort, elle sait qu'elle va mourir le lendemain, et elle arrive sereine au lieu d'exécution en disant « Je ne peux pas avoir de haine envers cet ennemi qui va me tuer.
Ouais. » Et ces mots seront gravés d'ailleurs sur le mémorial de St. Martin's Place, près de Trafalgar Square à Londres. Son corps n'est pas resté en Belgique, hein. Il a été enterré une première fois et puis après on l'a exhumé, c'est ça, hein.
Il y a eu la translation, ouais. Donc... de la dépouille d'Edith Cavell en 1919, et elle a été enterrée en toute solennité là-bas à Norwich.
En présence du roi George V. Alors, on l'a dit, ça a eu un grand écho sur l'opinion internationale, hein, cette affaire Edith Cavell, mais il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. C'est aussi le torpillage du Lusitania.
Oui.
Qui va encore faire plus de bruit, enfin d'écho.
Oui, oui, donc le torpillage de Lusitania a entraîné finalement l'Amérique en guerre. Beaucoup de passagers étaient américains et ce torpillage a été vécu par les Américains comme un acte vraiment de barbarie, de trahison. Donc,
sur le Lusitania, parmi les victimes, il y avait Marie de Page, c'est exact,
oui.
Ça. Donc une autre infirmière aussi, donc le symbole est encore fort là.
Et donc, effectivement, hein, autour d'Antoine Depage se trouvent trois dames qui l'ont aidé à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire cet immense hôpital de La Panne qui va servir de modèle même aux Alliés. Trois femmes. Il y a évidemment la reine Élisabeth, ce n'est pas le but de l'émission, on ne va pas en parler, mais il y a Edith Cavell qui a soutenu Antoine Depage en restant à Bruxelles, en faisant vivre son école d'infirmiers. La mort de sa femme, Marie Depage, partie faire des conférences aux États-Unis pour essayer d'avoir des sous pour aider l'hôpital L'Océan de son mari. Donc Marie Depage reprend un bateau qui sera torpillé, c'est le Lusitania, et ça la va entraîner par après l'entrée des États-Unis en guerre. Donc finalement, les dames qui ont entouré Antoine Depage, le docteur Depage, ces dames ont pris part inconsciemment à des événements qui vont amener à des conséquences internationales, et c'est assez curieux.
Ouais, et sur les conditions de l'exécution d'Edith Cavell, la légende aussi va se mettre en marche. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'elle s'est évanouie, qu'un soldat va l'abattre finalement avec son revolver.
Il semble bien qu'elle se soit vraiment évanouie devant le peloton d'exécution. Après, il y a plusieurs versions. Hein. Il y a une version qui dit que c'est un officier qui n'a pas eu de feu, de salve, que c'est l'officier qui, avec son revolver, l'a exécuté d'une balle dans la tempe. Une autre théorie dit que l'officier l'aurait fait transporter un peu plus loin, l'aurait fait redresser par les soldats et qu'il y aurait quand même une salve. Mmh. Et une troisième version dit que la salve qui a quand même été faite par le peloton d'exécution n'a pas été mortelle et que l'officier aurait dû donner le coup de grâce. Mais peu importe, finalement, c'est effectivement les Anglais qui ont publié des dessins d'Edith Cavell exécutée de sang-froid par un officier. Mais les choses ne semblent peut-être pas s'être passées comme ça. Donc,